Parole de Dieu, j'introduirai ce message par deux textes, l'évangile de Luc au chapitre 15, on va lire les sept premiers versets, s'il vous plaît, l'évangile de Luc, le chapitre 15, et dès le verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux ?» Mais il leur dit cette parabole « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et le livre de la Genèse, le chapitre 12, là aussi nous lirons les sept premiers versets. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, permettez ici une nuance que je pense très importante pour la compréhension des choses. Dans l'hébreu, l'accord des temps de verbe fait que on aurait dû traduire l'Éternel avait dit à Abraham. Ce n'est pas l'Éternel dit, mais il avait dit. Donc on fait un bond en arrière et on se reporte au premier jour où Dieu s'est révélé à Abraham. Il avait dit, mais là, des années ont passé, au moins 15 ans ont passé, et donc l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin par son onction sur nous tous. J'en ai besoin pour vous délivrer le message et vous en avez besoin pour le recevoir, afin que chez vous comme chez moi, la parole de Dieu porte des fruits merveilleux. Alléluia. Oui, il va être question ce matin de ce patriarche Abraham, Abraham qui devient Abraham, à qui dans le pays des Chaldéens, à Ur, en Chaldée, Dieu s'est révélé un jour. Dieu s'est révélé à cet homme qui était dans une ignorance complète plonger dans des croyances occultes, des pratiques païennes, et brusquement Dieu se révèle, et en effet, il lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ça, c'est la volonté initialement révélée de Dieu pour Abraham. Et les récits bibliques nous montrent que Abraham a obéi partiellement. Il est parti dans une démarche que je pourrais qualifier de faux départ. De faux départ, parce que il est parti, en fait, les versets qui précèdent montrent que c'est Térak, le père d'Abraham, qui prend les choses en main, il contrôle tout, le père du clan, n'est-ce pas? Et c'est Térak qui, par sa sagesse à lui, initie, gère, organise, et finalement, il décide, et il entraîne toute la famille derrière lui, il décide d'aller à Charan. Parce que, sur un plan rationnel, Charan, c'était un pays de prospérité, de réussite facile. D'ailleurs, c'est là, effectivement, qu'Abraham va multiplier ses troupeaux, acquérir des serviteurs. Il va y avoir une prospérité matérielle, économique, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils arrivent à Charan, nous disent les versets qui précèdent, et ils y habitèrent. Et grosso modo, ils y passent une quinzaine d'années jusqu'à ce que Térak meure, le vieil homme meure. Il a fallu la mort du vieil homme pour que Abraham réintègre vraiment les plans de Dieu pour sa vie. Moi, je prie pour que, en commençant par ce qui me concerne, et pour chacun d'entre nous, notre vieil homme qui est crucifié en Jésus aille jusqu'à sa mort effective. Alléluia. Et que l'homme nouveau créé depuis que nous avons rencontré le Sauveur se développe, lui, à l'image de Dieu. Alléluia. Et là, Dieu lui dit, Abraham, je te rappelle ce que je t'avais dit au début. L'Éternel avait dit. Et donc, il remet Abraham sur les bons rails, dans la bonne direction, et Abraham arrive dans le pays de Canaan. Et je voudrais que nous puissions examiner dans notre texte deux versets en particulier. Lorsqu'il arrive, il traverse le pays du nord au sud, et il arrive, nous dit la Bible, à un endroit nommé Sichem. Avec un chêne, ici c'est le pluriel, mais en réalité dans le texte originel c'est le singulier. Il y a un chêne appelé le chêne de Morée, c'est là que Abraham va vivre une expérience marquante, définitivement marquante. Il va retrouver ou trouver enfin les bonnes références qui vont permettre que toute son histoire à venir va se vivre sur des bonnes bases. Mon frère, ma sœur, mon cher ami, j'aimerais, à travers ces deux versets 6 et 7 de Genèse 12, redécouvrir ou découvrir quelques éléments de référence indispensables à la solidité de ta foi et qui vont conditionner tout le parcours qui s'ouvre devant toi. Il arrive dans un lieu nommé Sichem. Et le nom Sichem signifie épaule. L'épaule. Et il y a déjà ici un enseignement spirituel d'une importance extraordinaire. C'est que Dieu, parce que c'est le Dieu de la grâce, lorsqu'il nous trouve dans l'état où nous sommes, lorsqu'il nous trouve, nous prend et nous met sur ses épaules. C'est pourquoi nous avons lu la parabole que Jésus a rétorquée à ses contemporains qui étaient là dans des tentatives pernicieuses. parabole d'un homme qui possède 100 brebis. Le soir, dans le désert, il fait l'appel, l'inventaire. Il lui en manque une. En pleine nuit, il s'en va à la recherche de sa brebis perdue. Jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Peut-être ce matin, parmi nous, se trouve-t-il la 100e brebis. La brebis qui n'a pas encore vécu l'expérience de connaître la personne et l'identité du Sauveur. Eh bien, sache-le, Dieu t'aime d'un tel amour qu'il n'a pas de cesse jusqu'à ce qu'il t'ait trouvé. Et ma prière, c'est que ce dimanche, il te trouve. Et Jésus va dire, lorsqu'il l'a trouvé, il la prend avec joie et il la met sur ses épaules. Et ce mot « épaule » dans l'hébreu peut avoir trois implications, trois projections. C'est la force, c'est le soutien et c'est la souveraineté. Trois notions dont Dieu veut me faire profiter, te faire profiter, la force, le soutien et la souveraineté. Moi, je dis que c'est déjà ici la présentation de la vie que je vis dans la grâce de Dieu. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » La grâce est une notion tellement riche, précieuse, profonde. Ceux qui en font un usage léger ne l'ont pas vraiment comprise. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le berger voit dans quel piteux état de traumatisme, de blessure, de fracture, de brisement, l'existence de péché a conduit la brebis perdue. Et dans son immense compassion, il la prend et il sait très bien la vulnérabilité, la fragilité, les capacités très limitées de la brebis. Alors il la met sur ses épaules. Dieu connaît ta fragilité. Dieu sait qu'au-delà de tes limites étroites, tu as impérieusement besoin de sa grâce. Jamais le Seigneur ne me demandera d'accomplir des choses qu'il sait par avance que je ne serai pas capable d'accomplir. Alors il me prend et il me met sur ses épaules. La question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, est-ce que vous vivez votre vie chrétienne sur les épaules du Seigneur Jésus? Ou bien plutôt, êtes-vous comme dans une arène en train de gérer, de réagir et d'essayer de multiplier vos efforts? Vous allez vous épuiser, mes bien-aimés, vous allez vous épuiser, mais comprenez que la grâce consiste dans cette démarche du berger qui prend sa brebis, et tu en es, je l'espère, et il la met sur ses épaules. Contre quoi te bats-tu? Des obsessions, des souvenirs culpabilisants? Quels sont les éléments de ton quotidien qui t'ont vaincu, dont tu aimerais te défaire? Du reste, tu as essayé de t'en défaire. Et jusqu'ici, ce fut déception sur déception. Eh bien, laisse simplement le Seigneur te mettre sur ses épaules. Parce que ses épaules, c'est la force dont tu as besoin. C'est le soutien qu'il te faut. Et c'est aussi la souveraineté du Seigneur qui se déploie en ta faveur. Amen. Amen. Lorsque nous prions, il est une expression qu'il me semble que nous utilisons sans trop en prendre la substance, l'expression « au nom de Jésus ». Vous savez, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais mes amis, si le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné de prier de la sorte, c'est pour que nous prenions conscience de l'autorité et de la souveraineté qui se trouvent dans le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule que tu prononces, c'est une confession spirituelle. Tu es en train de déclarer une réalité. Lorsque tu utilises l'expression « au nom de Jésus », tu es en train de dire « j'ai placé toute ma foi et toutes mes attentes dans le pouvoir souverain de Jésus ». Donc je m'y attends, je suis dans une disposition de foi, je me réjouis par anticipation, j'annonce déjà, je précède la concrétisation de la chose. L'épaule du Seigneur, c'est la force dont tu as besoin, le soutien et la souveraineté qui fait de toi une personne pas banale, que le diable ne pourra pas manipuler à loisir. Tu n'es pas, en tout cas tu n'es plus n'importe qui. On l'a chanté, tu es enfant de Dieu et tu es sur les épaules de celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais c'est quoi la déprime? C'est quoi l'angoisse? C'est quoi les ténèbres? C'est quoi le trouble face à celui qui est le roi des rois, le Dieu éternel? Que le Seigneur soit béni. Il y a un texte, est-ce qu'on peut le projeter dans le prophète Ésaïe? On le connaît par cœur, mais il est tellement bon à décortiquer. Ésaïe chapitre 9 et le verset 5, mes frères et mes sœurs. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est merveilleux ce verset, n'est-il pas? D'une richesse extraordinaire. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne éclairer, illuminer les richesses, les trésors qu'enferme ce verset. Il y a trois parties dans ce verset, trois parties. Je vais citer pour commencer la première et la troisième, qui concerne la personne même de celui que Dieu nous a envoyé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et puis, troisième partie, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et entre la première et la troisième partie de ce verset, s'insère cette parole. La domination reposera sur son épaule, la domination. Et j'ai besoin, dans mes combats quotidiens, face aux tentateurs, au découragement, aux sombres nuages qui voudraient me cacher le soleil, face à toutes les phases inconfortables que je serais appelé à traverser, j'ai besoin de demeurer sur l'épaule du Seigneur. Amen. Ça commence comme ça pour Abraham. Ça y est, il est au bon endroit. Il est à Sichem, c'est son point de départ, c'est la case départ, et tout le programme qui l'attend va reposer sur cette réalité. C'est comme si Dieu était en train de dire, tu vas demeurer sur mon épaule, c'est moi qui vais te porter, tu ne vas pas t'appuyer sur tes ressources, tes énergies, tes compétences, mais tu vas t'appuyer sur l'Éternel, comme le dit un psaume, et on aurait pu en citer beaucoup d'autres. Ce merveilleux psaume 28. « Oh, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force. » Amen. Oh, que quelqu'un, moi je ne suis pas pour le tatouage, hein, mais je ne vais pas vous dire tatouer ce... Non, mais... Soulignez-le, surlignez-le, encadrez-le, mémorisez-le, chantez-le, enfin mettez-le sur tous vos murs, tapissez votre chambre. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru La conséquence, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. La première citation, c'est personnel, c'est individuel. Il est ma force. La deuxième citation, elle est communautaire. Il est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Que Dieu soit béni. Dites-moi quelque chose. Un alléluia, quelque chose. Célébrer le Seigneur, alléluia. Hein. Ça commence par Sichem. Il y a l'épaule du Seigneur. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose. C'est que, d'une certaine façon, pour ne pas dire d'une façon certaine, nous sommes toujours sur l'épaule du Seigneur. Vous savez, ainsi que Dieu l'Éternel l'avait prescrit dans l'ancienne alliance, prescrivant que l'on mette sous les épaules du souverain sacrificateur, afin que les deux parties de l'éphod soient fixées là. Une pierre d'onyx à gauche, une pierre d'onyx à droite, et ces deux pierres d'onyx étaient gravées des 12 noms des 12 tribus d'Israël. Et c'est comme ça que le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait dans le lieu très saint, offrant le sang d'un animal innocent, priant et plaidant pour le peuple. Et Dieu qui était là voyait chaque nom de chaque tribu d'Israël. Un texte ce matin nous a été rappelé que je vais vous lire explicitement dans l'Épître aux Hébreux. Ne cherchez pas, je vous lis simplement ce texte magnifique qui stipule « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternel, que le Seigneur soit béni. Pendant que je vous prêche, il y a dans le ciel cette scène qu'on peut essayer d'imaginer du souverain sacrificateur par excellence, Jésus, qui est devant son Père et qui présente à son Père son propre sang, versé une fois pour toutes, une fois pour toutes. Et il y a, si vous permettez que je l'imagine comme cela, il y a sur ses épaules Jean-Marc Tchirkechian. Oh là là, mais bien sûr, à côté, juste à côté. Michel, bien sûr. J'aimerais te dire que quelqu'un dans le ciel fait mention de toi. Les anges entendent la mention de ton nom, de ton prénom. Quelqu'un parle de toi dans le ciel. Est-ce que tu le savais? Quelqu'un est en train de te citer. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe quel personnage. C'est le souverain sacrificateur par excellence. Il parle de toi avec un ministère d'intercesseur, d'avocat de défense. Et il plaide auprès de son Père afin que le secours de Dieu soit déversé dans ta vie. Oh, alléluia! Moi, je n'aurais pas pu rester assis, je ne sais pas. C'est pour ça que je vais mettre debout. Hein. Quelqu'un parle de toi au Père céleste. Et ce quelqu'un, c'est ton défenseur. Tu as un défenseur. Tu as quelqu'un dans le cœur duquel un prix important est attribué à ta personne, à ta vie, à ton quotidien, à chaque instant de chaque jour. Oui, chaque instant de chaque jour qui passe, quelqu'un parle de toi dans le ciel et il prie et il plaide et il réclame. Et il l'a dit au petit matin à Simon, 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 le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Je crois que dans un cœur ou quelques cœurs ce matin, la foi menace de défaillir. Je crois que ce matin, quelques personnes sont pas très loin d'une défaillance. Le roi David disait, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Qu'un pas. Quelqu'un peut-être pourra dire, ben, ce matin, frère, vous vous prêchez là. Mais moi, dans l'état où je suis, avec mes questions sans réponse, j'ai l'impression que je suis à un pas d'une défaillance. Eh bien, ce pas, tu ne vas pas le franchir. Eh oui, tu ne vas pas défaillir parce que tu es incrusté sur les épaules du souverain sacrificateur. Alléluia! Il parle de toi en des termes bienveillants, en des termes porteurs de grâce, d'espérance et de victoire et de restauration. Que son nom soit béni. Oh, d'ailleurs, si nous sommes encore là, c'est bien la preuve qu'il nous porte. Oui ou non? Oh, parce que ça fait longtemps qu'on ne serait plus là, n'est-ce pas? Mais si nous sommes là, mais c'est parce qu'il nous porte. Et moi, j'affirme ceci, c'est que toute ma vie chrétienne sur terre, je veux la vivre sur les épaules du Seigneur Jésus. Bien sûr, il faut que j'apprenne à marcher. C'est sûr, il faut que je grandisse, que je sois mature, ça c'est sûr. Mais même si je suis dans un degré de croissance qui me permet de marcher, en fait, je marche, mais dans la grâce. Je marche sans oublier que je suis sur les épaules du souverain sacrificateur par excellence qu'il est, que le Seigneur soit béni. Voici donc, mon frère, ma sœur, le premier élément de départ sur lequel je voulais insister ce matin. Il faut que ta vie chrétienne ait comme base initiale cette réalité. Tu es appelé à rester sur les épaules de Jésus. Ce que tu ne pourras jamais faire pour avancer, lui, il va te faire avancer en te portant sur ses épaules. Et je posais la question tout à l'heure, quel est le nom de ton problème? Quels sont les noms de tes problèmes? Bien, j'aimerais dire que quel que soit leur nom ce matin, c'est Jésus qui te délivre. Amen. Certains sont tenus, entravés par la cigarette, l'alcool, par des idées noires, par des inclinations dont ils n'arrivent pas à se soustraire, à se libérer. On a chanté la liberté glorieuse en Jésus-Christ dans ces cantiques, n'est-ce pas? Et quelqu'un peut-être n'a pas pu le chanter parce qu'il se dit, mais toi tu es encore dans l'incapacité de te sortir de là. Quelqu'un peut-être est tenu par le vice du jeu d'argent, que sais-je, des lectures mauvaises. Eh bien, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par la puissance libératrice de celui qui te porte sur ses épaules, tu vas entrer là dans la pleine jouissance de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Je termine là bientôt parce que à Sichem, il y avait un lieu encore plus localisé, le chêne de Morée. Et ça a été pour Abraham un lieu privilégié, vous savez. Le chêne de Morée, on pourrait dire, pour traduire ce nom propre, le chêne du professeur qui enseigne, le chêne de l'enseignement. On suppose, les commentateurs bibliques avancent cette possibilité que c'était un lieu qu'on avait appelé comme cela parce que, eh bien, tous ceux qui étaient dans des questionnements. On a fait des questions hier avec les jeunes, hein, des questions-réponses comme on a pu. Tous ceux qui étaient devant une situation mystérieuse dont ils ne comprenaient pas le sens, ils n'arrivaient pas à comprendre comment gérer leurs problématiques, eh bien, venaient chercher la sagesse dans ce lieu, l'enseignement. Je crois aussi, mon frère, ma sœur, qu'à la base de ta vie chrétienne, il doit y avoir le chêne de Morée. Le chêne de l'enseignement. On a besoin de l'enseignement du Seigneur. dans le terme hébreu, ce mot enseignement, ça peut sembler étrange, mais je vais vous expliquer un petit peu les choses. C'est un verbe qu'on peut dire lancer vers une direction. Lancer vers une direction. C'est comme si Dieu, par son enseignement, nous montrait vers quelle direction nous devrons nous mettre en mouvement. Parce que tous ceux qui pensent que l'enseignement, c'est l'accumulation de connaissances mortes dans notre cerveau, se trompent. Quand Dieu m'enseigne, c'est pour que son enseignement m'éclaire, me convainque et me mette en mouvement, suscite en moi une motivation, un désir. Jésus disait, si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. À quoi ça me sert, moi, de savoir ? Je n'ai pas envie d'être une encyclopédie biblique sur deux pattes. Hein. Mais je prie pour que l'enseignement que Dieu me communique me mette en mouvement. Moi, je ne veux pas d'une vie chrétienne statique, dans l'immobilisme. J'ai pris mon baptême. Oui, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en 1600 et quelques. Mais ça veut dire quoi ? Mais non, je veux aujourd'hui être dans une vie chrétienne en mouvement, en progrès, en enrichissement perpétuel. Je veux mieux le connaître, je veux remporter de nouvelles victoires. Et vous ? Oui ou non ? Je veux aller de l'avant, je veux aujourd'hui l'aimer plus qu'hier, mais moins que demain, comme vous savez la formule. Hein. Je veux un enrichissement permanent, gloire à Dieu, alléluia. Je ne veux pas accumuler des connaissances mortes, mais je veux comprendre que quand Dieu m'enseigne, c'est pour me mettre en mouvement. Le psaume 32, les versets 8 et 9 qu'on va lire ici, nous dit ceci. Le psaume 32 et le verset 8. Alors ce psaume, si vous lisez chez vous les sept premiers versets, alors vous comprenez tout de suite que c'est le roi David qui se trouve dans une grande crise de péché, de culpabilité. Il exprime cela dans des termes très forts et puis Dieu le visite, Dieu le relève, Dieu le restaure, parce que Dieu restaure, gloire à Dieu. Et puis il y a ce que je peux dire, le chêne de Morée, le chêne de l'enseignement, où Dieu dit à David, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a un mouvement. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est pas merveilleux ça ? Regardez le verset qui suit. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Et s'il y a deux animaux qui sont délicats et difficiles à driver, comprenez l'anglais un peu, driver, c'est le mulet et le cheval. Moi, je suis admiratif devant ces cavaliers qui arrivent, à force d'éducation de leur monture, ils arrivent, il y a des concours d'ailleurs, hein, de dressage de chevaux. Ils sont là et ils font faire à leur cheval ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai regardé à la télé. Comment il fait ? Mais on n'entend rien, on ne voit rien, pas de mouvement. Le cheval comprend. Une petite pression, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font. C'est extraordinaire. Le cheval, il fait trois pas en oblique. Il garde une patte suspendue le temps qu'il le faut. Jusqu'où ce cavalier a réussi à sensibiliser sa monture sur les signaux imperceptibles pour les profanes, mais très très clairs pour le cheval. Cette bête qui, à l'état d'origine, et indomptable est allé à l'école du dressage. Et sa sensibilité et sa soumission à son cavalier est tellement affinée que on obtient tout de lui. Alors le mulet, c'est encore pire. Le mulet, le cheval se cabre, le mulet freine des quatre fers. Allez faire à un mulet quelque chose qu'il a décidé de ne pas faire. Vous mettez une cagette de carottes, il avance, il veut pas avancer, il avance pas. Ben, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, je me demande si parfois je n'ai pas été un mulet. Et alors qu'un simple murmure de l'Éternel devrait suffire, quelquefois il doit crier à mes oreilles. Quelquefois il doit utiliser des méthodes qu'on qualifie de fortes pour se faire comprendre, entendre. Mais quand même, oh, quelle patience de Dieu. Croyez pas que Dieu est patient ? Quelle patience, sans se lasser, et avec un amour qui reste constant, il nous instruit, il nous enseigne. L'apôtre disait, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, car je sais que pour vous, ceci est salutaire. L'enseignement, le chêne de Morée, le chêne de l'enseignement, comporte l'idée de nous mettre en mouvement dans la direction que Dieu nous indique, que le Seigneur nous enseigne. Amen. Un des chapitres les plus connus de l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 5, vous savez, avec les béatitudes. La Bible nous dit dans ce passage que Jésus monte sur une montagne et j'imagine qu'arrivé vers le sommet, il voit une grosse pierre un peu plate, il s'assoit, la foule est là et à un moment donné, de la foule, sortent ses disciples, pas que les douze, hein, mais tous ceux qui étaient déjà dans une foi, ils sortent et là, il se met à les enseigner. Il se met à les enseigner. Et en les enseignant, eh bien, il leur indique dans quelle direction leur vie doit s'orienter. Par exemple, il leur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et là, il monte la direction. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez encore appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous avez appris, mais moi je vous dis, et par ce que je vous dis, je vous montre le chemin. Il y a un changement de direction. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour changer de direction et pour embrasser la direction que Dieu indique, moi je vous dis, dit le Seigneur. Seigneur, tu le dis, mais de tout mon cœur, tellement de fois, j'ai été affligé de constater que les chrétiens peuvent entendre les plus belles prédications qui soient, ça ne change rien chez eux. Ça ne change pas leur manière de penser. Ça ne change pas leur manière de parler. Leur discours reste le même. Discours défaitiste, négatif, nostalgique. Ah, du temps du pasteur Untel en 1800 et quelques. Ah, c'était merveilleux. Non, mais. Et pourtant, ils entendent l'enseignement et l'enseignement ne les lance pas dans la direction dans laquelle le Seigneur voudrait les inviter. Tant de fois, j'ai pleuré devant le Seigneur. Seigneur, mais. À quoi ça sert? Mais si, ça sert quand même, il faut y aller. Hein. Il faut enseigner. Hein. Tant de fois, on constate qu'on peut écouter les meilleures prédications, les meilleurs prédicateurs, et ça ne change pas nos habitudes. On a décidé que notre vie chrétienne, c'était ce format. Ça fait 3 décennies que c'est comme ça. Et même si c'est le Seigneur qui me dit que je dois changer ce format et que, par exemple, mardi soir, la prière que j'ai considérée comme une chose insignifiante, eh bien, ça devient une urgence. Que Dieu change mes habitudes. Que Dieu change mes priorités. Que Dieu change peut-être mes perspectives, mes projets, les réalisations que je caresse dans mon imaginaire. Que le Seigneur vienne bousculer tout cela et que le Seigneur nous lance dans sa direction par le moyen de son enseignement. Gloire à Dieu. On a un enseignant parfait. C'est les élèves qui ont besoin d'être enseignables. Hein, enseignables, hein. Nous ressemblons quelquefois à nos petits-enfants. Ils ont 6 ans et ils nous disent « Je sais faire !»« Laisse, je sais faire !» Mais non, j'ai besoin d'être enseigné. Oh, que Dieu soit béni pour son enseignement précieux, merveilleux, constant, patient, et que son enseignement vienne nous amener eh bien, des richesses nouvelles et de perfectionner notre marche chrétienne. Je termine. 2 versets, hein. On a lu, on revient à ces 2 versets, 3 minutes, les versets 6 et 7. Alors, dans le verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, l'épaule, jusqu'aux chaînes de Moré, l'enseignement, et les Cananéens étaient alors dans le pays. Wow! Abraham va s'apercevoir d'une présence pas sympathique, pas accueillante, la présence des Cananéens. Mais immédiatement, au verset 7, il est dit, l'Éternel apparut à Abraham. Et là, Abraham va découvrir la présence de Dieu. Et j'aimerais que nous réfléchissions quelques instants, et si vous voulez prolonger la réflexion à votre niveau personnel après le culte, c'est très très bien, la juxtaposition de deux présences. Verset 6, la présence des ennemis. Verset 7, immédiatement, hein, la présence de Dieu. Parce que c'est quand même la première fois que Dieu apparaît à Abraham. Première fois. Les révélations précédentes furent par sa parole, l'Éternel dit, mais là, l'Éternel apparaît à Abraham comme s'il était en train de lui dire, ils sont là les Cananéens, ils sont nombreux, pas très accueillants, mais je suis là moi aussi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est là. La meilleure réponse à la présence des ennemis, c'est la présence de Dieu. Amen. Il est là, la présence du Seigneur, c'est notre force, on l'a dit, notre soutien, on l'a dit, notre souveraine autorité, on l'a dit aussi. Parce que parfois, l'ennemi voudrait nous donner une vue sélective, on ne voit que l'adversité. Comme le serviteur d'Élisée qui dit, oh, mon père, oh là là, il y a des Syriens partout. Tu as vu leurs chevaux, leurs chars, comment ils sont armés. Ils voyaient les Syriens autour de la ville de Samarie. Alors Élisée prie, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et Dieu ouvre les yeux du serviteur et le serviteur voit au-dessus des hordes syriennes les armées célestes. Ouh, ça va mieux, hein? Ça va mieux. Il voit des chevaux de feu, une armée nombreuse, glorieuse. Ah, ça l'a rassuré immédiatement. Hein. Ben, on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Hein. Parce que souvent, on ne voit que les ennemis. On ne voit que les problèmes. On ne voit que les Cananéens. Mais que ce matin, que le Seigneur ouvre tes yeux. Et que tu puisses voir qu'il est là. L'Éternel des armées. Alléluia. Il est là. Du reste, c'est parmi les dernières paroles que Jésus a prononcées. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur soit béni. Et je termine un élément encore tellement important. Et Abraham bâtit là, à Sichem, aux chaînes de Moré, lorsque Dieu vient de lui apparaître, il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est le premier autel qu'Abraham érige. Là aussi, c'est un élément de base. Toute sa vie à venir va s'appuyer sur cette réalité de l'autel. L'autel. Mais est-ce que l'autel n'est pas une préfiguration de la croix? Amen. D'autres autels seront édifiés par le patriarche, mais dès le commencement, il y a l'autel. Je vous le dis systématiquement, chaque matin, quand je commence mon moment avec le Seigneur, je commence systématiquement en invoquant l'œuvre de Jésus à la croix. Le tout est accompli de Jésus. Parce que caché en Christ, revêtu de sa rédemption acquise à Golgotha il y a 2000 ans, alors là, oui, je peux entrer dans le lieu très saint. Et une chose que je ne veux surtout jamais oublier, c'est ce que Jésus a fait pour moi et la victoire qu'il a une fois pour toutes remportée et accomplie afin que nous en bénéficions jusqu'au bout, que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu es sur l'épaule de Jésus? Amen. Est-ce que tu sens que son épaule est forte? Qu'il y a du soutien? Il te soutient. Alors tu prends courage. Même si ton ressenti personnel fait que tu te sens au bout du rouleau, ben, au bout du bout, il y a sa force, son soutien, sa souveraineté. Et si tu t'es délogé de son épaule, reviens. Parce que c'est la place à laquelle tu es destiné. Reste sur l'épaule du Seigneur. Que sa force se communique à toi. Que son aide et son secours te relèvent ce matin. Amen. On va se séparer en ayant...